Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau numéro de Talk Show. Cette semaine, on va parler d'un documentaire qui sera diffusé dans la case du siècle sur France 5. Ce sera le 6 novembre à 22h40. Le thème, c'est « Juifs d'Algérie, la résistance oubliée », un film qui a été écrit par Stéphanie Monsenego et réalisé par Bernard Georges. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Stéphanie Monsenego. Bonjour.
Oui, allô?
Ah, vous êtes avec nous. Bonjour, je vous disais. Est-ce qu'en deux mots, on peut savoir qui vous êtes? Vous pouvez vous présenter à nos éditeurs?
Oui, bien sûr. Bonjour, je suis Stéphanie Monsenego. C'est mon premier film, c'est le premier film que j'écris. J'ai pendant très longtemps fait de la communication de crise. Et puis, changement de vie, deuxième carrière, et puis envie d'écrire ce qui me tenait à cœur. Donc, voilà.
Alors, vous parlez des Juifs d'Algérie, c'est-à-dire que vous êtes vous-même issu d'une famille d'origine algérienne?
Oui, toute ma famille paternelle vient de Mostaganem. Et voilà, donc effectivement, c'était une partie de mes origines que j'avais envie d'explorer davantage et de mettre à l'honneur.
Alors, vous parlez de la résistance juive entre 39 et 45 en Algérie. Mon papa, qui n'est plus là, Zichrono Livracha, ne parlait pas beaucoup et n'a jamais parlé de cette résistance juive en Algérie. Elle a été cachée, oubliée volontairement?
C'est un peu plus compliqué. Moi, chez moi aussi, c'était l'omerta totale. D'abord, ils étaient peu nombreux. Ils étaient concentrés surtout, et ceux qui ont réussi, surtout à Alger. Parce qu'il y avait un réseau aussi à Oran, mais qui a malheureusement été éventé avant le jour du débarquement, donc ils n'ont pas pu s'illustrer. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font que c'est l'omerta. La première, c'est que l'opération Torche, ça a été finalement la répétition des autres débarquements, donc bon, on oublie un peu. La deuxième, c'est que à l'issue de l'opération Torche, les Américains ont mis en place un gouvernement encore plus vichiste que ne l'était le gouvernement précédent, donc avec Darlan, puis Giraud, que les résistants ont été bien mal récompensés de leur acte de bravoure.
On va en parler dans un instant.
Voilà, et puis je pense aussi que, en tout cas pour ce qui est dans ma famille, il y a une sorte d'omerta sur la situation des Juifs d'Algérie sous Vichy, qui est liée au fait que par rapport à la Shoah, c'était assez difficilement audible que d'expliquer qu'ils avaient vécu un certain nombre de privations et d'exactions, même si a priori c'était parti pour mal partir, si je puis dire.
Voilà. Alors, le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent, c'est, vous l'avez dit, l'opération Torche. Mais avant de lancer cette opération, il y avait des résistants juifs qui se sont impliqués dans cette opération, notamment en faisant des actions, notamment dans les polices, dans les commissariats de police ou les centres d'information. Comment vous avez-vous trouvé ces informations? Comment vous avez réussi à remonter cette histoire?
Je crois que le déclencheur, pour être honnête, le véritable déclencheur, ça a été la lecture du livre de Bernard Attali sur l'année 1943, qui est sorti il y a 2-3 ans, où il raconte à la fois cette histoire, je dirais militaire ou de résistance, mais aussi toute la dimension qui m'intéressait beaucoup du combat pour recouvrer la citoyenneté pour les Juifs d'Algérie qui en avaient été déchus donc dès 40 quatre générations après le décret Crémieux.
C'était ça la principale motivation de ces Juifs-là, c'était pas disons d'être plus libre vis-à-vis de Vichy et vis-à-vis du nazisme?
C'était une motivation, je pense, qui était beaucoup plus une motivation républicaine, une motivation évidemment de recouvrer leurs droits. Les lois anti-juives se sont abattues sur eux d'une manière beaucoup plus violente qu'en métropole. Les exclusions des enfants des écoles, par exemple, alors qu'en métropole, c'était plutôt à l'université. Les spoliations, la réalisation des biens juifs. Sur tous ces domaines-là, Vichy a été plus dur en Algérie pour des juifs qui étaient français, ou en tout cas en les déchoyant, je ne sais pas si on dit ça, de leur nationalité. Vichy a été beaucoup plus dur pour les juifs d'Algérie que pour les juifs français de métropole. Et ça, la motivation de ces jeunes gens, c'était d'abord libérer, c'était presque gaulliste, quoi, libérer l'Algérie, et recouvrer leurs droits.
Alors, quand on entend des juifs d'Algérie, j'en connais énormément dans ma famille, ils disaient déjà à l'époque qu'il y avait beaucoup de Français qui étaient eux aussi, qui avaient reçu la nationalité en Algérie, qui étaient vichistes aussi, qui étaient à la limite antisémites. Il y avait beaucoup d'antisémites en Algérie à l'époque ?
Oui, bah, c'est ce que j'essaye de montrer dans mon film, et que pour moi, l'antisémitisme en Algérie, dont mon père me parlait pas, mais je suis allée jusqu'en Israël voir une vieille tante qui avait 99 ans à l'époque pour avoir des infos. L'antisémitisme en Algérie est devenu a explosé d'abord pendant l'affaire Dreyfus, où ça a pris des proportions bien plus importantes qu'en métropole. Ensuite, on a eu une période de calme et il y a eu une résurgence dans les années 30 et particulièrement quand le Front Populaire est arrivé au pouvoir, absolument terrible. C'est ce que je raconte aussi dans mon film. Mmh. Donc oui, il y avait un fort antisémitisme et oui,
déjà au départ.
Dès le départ. Et les Juifs étaient pris en étau, en fait, entre les Européens, comme ils appelaient là-bas, donc les Français, et les musulmans.
Alors, justement, les musulmans, vis-à-vis de ce qui se passait là-bas, en Algérie, vis-à-vis des Juifs, c'était quoi leur sentiment? Vous dites dans le film que certains intellectuels musulmans se sont élevés contre cette situation. Dans la population, c'était quoi? C'était normal? C'était évident? C'était aidant?
Je pense qu'il n'y a pas, faut pas faire d'angélisme, mais sans faire d'angélisme, globalement, les musulmans, à part ceux qui se sont fait un peu monter la tête par la propagande de Vichy, par la propagande d'extrême droite qui leur faisait miroiter je ne sais pas quoi d'ailleurs, la plupart des musulmans, et notamment des élites, avaient bien compris que finalement, maltraiter les juifs, pour simplifier, ça ne leur apportait rien, si ce n'est finalement de les conforter dans leur statut d'indigène. Donc, les musulmans ont plutôt été globalement solidaires des juifs et aucun n'a pris part à des... Par exemple, aucun ne s'est porté candidat pour l'administration de biens juifs spoliés dans le cadre de la réalisation économique. Il n'y a pas eu un musulman. Donc voilà, il y a eu une dignité globalement. Après, il y a des gens comme partout qui sont certainement mal tenus, qui ont dû balancer, si je puis dire, des juifs, etc. Mais globalement, les musulmans, le peuple et surtout les élites n'étaient pas du tout dans une dynamique antisémite.
Alors, on rappelle que le documentaire sera diffusé le 6 novembre à 22h40 sur France 5. C'est un documentaire qui dure 50 minutes. Pourquoi ce temps si réduit dans un documentaire qui, en général, dure entre 1h30 et 2h? Et vous, c'est 50 minutes, je crois, à peu près?
Non, alors il y a deux formats. Généralement, c'est soit 52, soit 90 minutes. J'aurais bien aimé que ce soit 90 minutes, là, pour... Il faut que vous demandiez à France Télévisions pourquoi.
D'accord.
Effectivement, on aurait pu en faire une série parce qu'il y a énormément d'aspects que j'ai dû raccourcir.
Alors, dans votre livre, dans votre film, excusez-moi, vous le dites régulièrement, c'est que finalement, cette résistance juive s'est faite pratiquement tout seul, malgré leur demande répétée aux alliés de leur fournir des armes, malgré la demande répétée aux alliés de leur fournir des photos. Ils ont en fait tout fait tout seul.
Ah oui, c'est vraiment c'est une résistance système D. Il faut voir que les Juifs étaient pris dans un océan, si je puis dire. L'Algérie était à la fois complètement isolée sur le plan territorial, donc pas de relais par d'autres pays, et isolée sur le plan sociologique. C'est-à-dire que, de toute manière, les élites dirigeantes françaises étaient, pour la plupart, et je ne vais pas faire de caricature, mais globalement très pétainistes, et donc le système antisémite mis en place ne les dérangeait pas. Quant aux musulmans, ils n'avaient pas vraiment de moyens. Donc, effectivement, il a fallu se débrouiller comme on peut. Et puis, ce qui est amusant, c'est que c'est ce que raconte un de mes protagonistes, José Aboulker, qui est un des grands leaders de cette résistance. Ils ont été obligés de conclure des alliances un peu particulières, un peu baroques, avec des gens de l'extrême droite qui, eux, avaient accès aux gens de pouvoir. Pour arriver à leur fin et se faire entendre des Américains et être crédible aux yeux des Américains. Donc c'était une alliance de circonstances, c'était une alliance de gens qui finalement tous refusaient en tout cas la collaboration et le régime de collaboration. C'est ce qu'ils avaient en commun, c'était d'être contre l'Allemagne.
Alors, il faut dire que cette opération, vous la racontez dans ce documentaire, donc on va tout raconter. Stéphanie Mocenigo, on fait une pause musicale, on va écouter Serge Lama et Enrico Macias dans une version un peu spéciale de la chanson L'Algérie. On se retrouve dans un instant, tout de suite.
Dans ce port, nous étions des milliers de garçons. Nous n'avions pas le cœur à chanter des chansons. L'aurore était légère, il faisait presque beau. C'était la première fois, je prenais le bateau. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure dont on ne voulait pas. L'Algérie, du dessert à Blida, c'est là qu'on est parti jouer les petits soldats. Au balcon, séchés draps et serviettes, comme en Italie, on prenait de vieux trains à banquette, on était mal assis. L'Algérie, même avec un fusil, c'était un beau pays, l'Algérie. Ce n'était pas un port à faire du mélo, et pourtant je vous jure, on avait le cœur gros.
Quand je les ai vus s'éloigner,
s'éloigner, s'éloigner, il y en a qui n'ont pas pu s'empêcher de pleurer. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure dont on ne voulait pas. L'Algérie, du désert à Blida, c'est là qu'on est parti jouer les petits soldats.
Nos fiancés nous écrivaient des lettres avec des mots menteurs.
Le soir, on grillait des cigarettes afin d'avoir moins peur. L'Algérie, même avec un fusil, c'était un beau pays, l'Algérie. Un port, ce n'est qu'un port, mais dans mes souvenirs, certains soirs malgré moi, je me vois revenir
sur ce pont délavé, sur ce bateau prison,
quand Alger m'a souri.
Notre invité aujourd'hui, Stéphanie Mocenigo, pour le documentaire de la Case du siècle. Ce sera le 6 novembre à 22h40 sur France 5. Le titre de ce documentaire, Juifs d'Algérie, la résistance oubliée. Stéphanie Mocenigo, on va parler de l'après, après cette prise, on va dire cette opération torche. Là, ça se recomplique pour les Juifs algériens.
Bah oui, ce qui est terrible, c'est que finalement, sans cette petite bande de jeunes à la fois intrépides, d'un courage inouï et d'un sens patriotique rare, alors qu'ils avaient été déchus de leur citoyenneté, ce qui est quand même le comble, au lendemain du débarquement, se retrouvent à nouveau remis au banc, voire pour certains déportés. Pas pour très longtemps, pendant que la partie, ce que je disais tout à l'heure, la partie de droite ou d'extrême droite de leurs camarades, qui notamment d'Astier de la Vigerie, eux, ont droit à des médailles. Donc tout ça est lié à l'indécision et de l'état-major américain arrivé sur un territoire qui était quand même souverain, qui était le territoire français. Et son indécision sur la direction politique à mettre en place pour cette Algérie libérée, entre guillemets. Et finalement, un hasard de circonstance a fait que c'est Darlan, le pire des collaborateurs, le dauphin de Pétain, qui était là, qu'ils avaient sous la main et qu'ils ont mis en place pour gouverner l'Algérie. Et vous pouvez vous douter que ça n'a pas été du coup très facile pour les Juifs pendant encore un an, avant, jusqu'à ce que De Gaulle en fait prenne la direction du Conseil national de la Résistance et de la France libérée.
Alors il y a un de vos résistants qui dit clairement que finalement, quand Darlan a été nommé, on est revenu au même point de départ et que même Darlan a essayé de capturer tous ces Juifs. Et après, avec l'autre, c'était pas mieux non plus. Giraud, bon, il a un peu adouci, mais c'était pas non plus ça.
Non, alors Giraud, c'est vraiment une vision très passéiste du monde et pas vraiment c'était un peu un nain en politique, enfin un enfant en politique, comme disaient certains de lui, un homme extrêmement conservateur, et sa seule inquiétude, en fait, et c'est ça tout l'enjeu de cette année 1943, sa seule inquiétude était de se dire que s'il rétablissait les Juifs dans leurs droits, c'est-à-dire le décret Crémieux, eh bien, les musulmans allaient se révolter et, ce qui est de mon point de vue légitime, demander également une citoyenneté, une sortie du statut de l'indigénat. Et donc, le refus de réintégrer les Juifs dans leurs droits de la part de Giraud, c'était peut-être pas tant de l'antisémitisme pur et dur que la peur d'avoir une révolte musulmane.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir, est-ce que ces faits d'armes-là sont connus dans les milieux résistants? Parce que, en fait, je suis en train de lire en même temps un livre dont on va parler dans quelques semaines à la radio, qui parle justement de Aboulker et de tous ces juifs-là qui disent que finalement, ils savaient qu'en Algérie, il y avait un clan de juifs qui avait réussi à aider la résistance. Est-ce qu'ils ont été reconnus après?
Oui, notamment Aboulker a reçu si ma mémoire est bonne, non seulement la Légion d'honneur, mais aussi la croix, excusez-moi, je ne sais plus quel titre de décoration.
La croix de guerre,
oui. Il y a une personne qui est à qui je veux rendre hommage, parce que finalement, les sources et les contenus d'information ont été très précieux de ce qu'elle avait fait, c'est Nicole Cohen-Haddad. Nicole Cohen-Haddad, elle est fille d'un de ses résistants, et elle a monté une association sur les résistants du 8 novembre. Elle a un site, elle a interviewé, tant qu'ils étaient vivants, tous ces gens-là. Et donc, sur son site, vous pourrez trouver aussi pas mal d'informations à ce sujet. Donc, elle porte la mémoire de ces résistants.
Vous avez appris des choses en faisant ce documentaire où vous aviez déjà des informations sur ce qui s'est passé? Moi, j'avoue que j'ai découvert ça en regardant votre documentaire.
Écoutez, moi, j'ai tellement appris de choses que pour moi... Alors d'abord, pour moi, puisque je suis d'une famille mixte, la Seconde Guerre mondiale, c'était surtout ma mère qui vivait à côté de Limoges et qui avait vu Oradour-sur-Glane brûler. Donc, si vous voulez, la Seconde Guerre mondiale, c'était plutôt ma mère qui l'avait vécu, qui l'a raconté d'une manière tragique. Mon père avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à parler de cette période parce que, en gros, deux choses. Il m'a dit « Ah bah tu sais, heureusement que les Américains ont débarqué parce que les étoiles juives étaient arrivées dans les préfectures. » Donc ouf. C'était tellement passé sous silence que je savais qu'il avait été viré de l'école, mais j'étais convaincue pendant des années que c'était pour indiscipline. Donc, si vous voulez, j'avais beaucoup à apprendre en effet. C'est pour ça aussi que j'ai eu envie de creuser, de comprendre aussi cette espèce de foyer d'antisémitisme que la France entretenait dans cette colonie d'une manière particulièrement aiguë et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, ni sur le territoire métropolitain, ni dans d'autres colonies.
À la fin de ce documentaire que vous avez fait, quel est votre sentiment? C'est vraiment que la France a oublié ces gens-là ou que le fait qu'il y ait peu de gens qui parlent de ça? Parce que c'était en même temps à l'époque très secret aussi.
Oui, c'est ça. Non, j'ai pas ni d'amertume ni de sentiment. Je suis très contente d'avoir fait revivre l'histoire et l'héroïsme de toute cette bande de gens. Il faut savoir quand même qu'il y avait 377 juifs sur 400 personnes, donc il y avait quand même aussi un certain nombre de résistants qui n'étaient pas juifs et grâce auxquels aussi, et quelques hauts gradés de l'armée française dissidents qui, grâce auxquels l'opération a pu avoir lieu et a pu avoir lieu sans trop de violence, et ça il faut leur rendre hommage. C'est pas une opération que juive, c'est vraiment une opération montée par des juifs avec d'autres qui ont envie de libérer leur pays. Maintenant, non, je n'ai pas d'amertume ou d'acrimonie vis-à-vis de la France. La seule chose que je trouve un peu, et que j'ai évoqué, c'est que je trouve un peu dommage, c'est que finalement, au moment de l'indépendance, juifs et pieds noirs ont été mis tous dans le même bateau, c'est le cas de le dire. Or, ce sont des histoires extrêmement différentes, des passés, des origines très différentes, et je lutte chaque jour pour, à chaque fois qu'on me dit « Ah bah toi, t'as des origines pieds noirs », je dis « Non, j'ai des origines de juifs d'Algérie, ça n'a rien à voir, mes ancêtres, ils y sont depuis 4 siècles, ils y étaient depuis 4 siècles, c'est pas des gens qui sont arrivés au 19e siècle de la colonisation, c'est juste ça qui me semble très important de redire. »
Il y a encore des survivants, je dirais, il y a encore des gens qui sont encore vivants de cette épopée, ou il n'y en a plus ?
Malheureusement, à ma connaissance, non. Et on a eu la chance de retrouver des rushs d'un film précédent où, ceux que vous verrez à l'écran sur le film ont été interviewés. Donc, on a repris ces interviews. Mais à ma connaissance, malheureusement, non. Donc, c'est la fameuse Nicole Cohen-Haddad qui fait vivre leur mémoire.
Alors, vous avez dit que c'est votre premier film. Il y en a un deuxième en préparation ?
Ah, il y en a plusieurs en écriture, mais pour l'instant, là, ce sera... j'ai beaucoup travaillé pour diverses raisons personnelles et professionnelles sur le génocide des Tutsis au Rwanda.
D'accord.
Donc, j'ai écrit plusieurs sujets qui sont dans les tuyaux. C'est assez long pour les chaînes de se décider. Donc, je croise les doigts en espérant pouvoir raconter cette histoire-là d'une autre manière que celle dont on l'a traitée jusqu'à présent.
On rappelle, La Classe du Siècle, c'est le 6 novembre à 22h40 sur France 5, documentaire écrit par un film écrit par Stéphanie Monsenego. Un mot sur le réalisateur Bertrand Georges, il vous a aidé dans la mise en image.
Ah, Bernard Georges est le réalisateur, hein. Moi je n'ai pas de compétences de réalisation, ou du moins pas encore, donc c'est vraiment lui qui a transformé un film écrit transformé en texte, un texte en image, et c'est un vrai métier, et tout le mérite lui revient.
D'accord. Donc on espère que ce documentaire sera vu, à noter, parce qu'on m'a demandé de le dire, que si vous ne pouvez pas voir ce documentaire à la diffusion, vous pourrez le retrouver sur le site de France 5 Replay, et vous pouvez revoir ce documentaire. On le rappelle, ça s'appelle « Juifs d'Algérie, la résistance oubliée ». Merci Stéphanie Monsenego d'avoir répondu à nos questions, et peut-être à très bientôt.
Eh bien, j'espère. Merci à vous.
Merci à vous. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine sur Radio Judaïka.